Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous parlions de la création de l'homme, nous parlions de l'homme et de la femme, Dieu qui les créa, homme et femme. Et parler de la création de l'homme, c'est parler de ce jardin des origines, de ce paradis qu'on va dire perdu. Et le catéchisme nous décrit ce que représentait cette présence de l'homme dans l'amitié avec Dieu, une amitié qui était indéfectible du côté de Dieu, mais qui s'est trouvée défaite par ce que l'homme et la femme, la manière dont ils se seront comportés. Alors, si je prends au catéchisme le numéro 376, l'article, par le rayonnement de cette grâce de Dieu, de la sainteté originelle, par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées. C'est-à-dire que tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, l'homme ne devait ni mourir, ni souffrir. L'harmonie intérieure, dit le catéchisme, l'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, enfin l'harmonie entre le premier couple et toute la création, constituait l'état appelé justice originelle. Relire aujourd'hui, nous qui sommes marqués par une rupture avec cette justice originelle, a toujours quelque chose de, j'allais dire, tu vas me trouver un peu naïf peut-être, il y a quelque chose d'émouvant de se dire c'est ça que Dieu a fait pour l'homme, c'est ça, c'est comme cela que Dieu a fait l'homme, c'est ça que Dieu voulait pour l'homme. Cet état où l'homme ne devait ni mourir ni souffrir.
Oui, il y a dans l'homme une nostalgie certainement de ses origines, et à chaque fois qu'il y a le spleen dans l'âme, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si on se souvenait d'un lieu auquel nous n'avons plus accès, qui était une harmonie parfaite. Et c'est vrai que toutes les grandes œuvres artistiques, toutes les grandes œuvres de paysagistes, toutes les belles réalisations dans l'harmonie entre ce qui est l'art et la nature, on voit qu'il y a une recherche de retrouver cette harmonie perdue, parce que sinon, très vite, c'est la pagaille. Dès que l'homme est laissé comme à ses instincts, il y a une perte d'harmonie, et on retrouve à ce moment-là la souffrance, la mort, la désharmonie et l'opposition de l'homme et de la femme, à tel point que parfois on essaie de monter les uns contre les autres. Je me souviens, on essayait de monter une fois, des hommes politiques essayaient de monter nos contemporains contre l'Église en disant que l'Église au Moyen-Âge avait douté que la femme avait une âme. Quelle ânerie quand on pense que nous proclamons que la Vierge Marie a une âme, que nous proclamons qu'Adam et Ève étaient corps, âme et esprit. Il n'y a jamais eu le moindre doute, mais c'est seulement un pauvre évêque gaulois, une fois qu'il a posé la question lors d'un synode, il confondait homme-genre et homme-masculin. Et donc il a posé la question, et à partir de là, on a fait toute cette pseudo-histoire sur le fait qu'on ait pu douter au Moyen-Âge. Il s'agissait d'un homme qui a seulement posé une question, ce qui n'avait pas très, très bien compris le sens d'une phrase. Ouais. Donc, vous voyez la façon dont les hommes politiques s'emparent d'un fait divers de l'histoire du Moyen-Âge pour essayer de construire une opposition entre l'homme et la femme, comme si l'Église avait voulu instruire une opposition entre l'homme et la femme, alors que tout est fait dans l'enseignement de l'Église, au contraire, pour montrer l'harmonie et par la grâce essayer de retrouver quelque chose de ce que nous avons perdu. Car la grâce ne détruit pas malheureusement la nature dans sa chute, mais la restaure et la guérit quelque part, et donc remanifeste une certaine harmonie en attendant l'harmonie finale. La difficulté à vivre ce temps présent, c'est que nous ne retrouvons pas l'harmonie parfaite, mais il faut, d'une certaine manière, seulement y tendre. Et nous aurons toujours à la reconstruire. Rien n'est jamais gagné. Génération après génération, il faut se convertir. Et c'est cela qui est le grand travail, je dirais, des générations, de se transmettre le flambeau de la foi pour aller vers cette orientation de l'harmonie. Mais cela ne peut pas advenir sans conversion. On parlait d'écologie la dernière fois, on parle de nos jours de conversion écologique. Eh bien, c'est vrai qu'il y a besoin de faire une conversion pour que notre domination du monde soit dominée par nous-mêmes et que nous respections, nous soyons dans une situation de sobriété. Les pères anciens grecs parlaient des pères neptiques, c'est-à-dire les pères sobres. Pourquoi ? Parce qu'ils enseignaient d'une certaine manière avec non seulement sobriété du langage, mais aussi sobriété des mœurs et un agir sobre dans la façon de se nourrir, de s'habiller, de louer même. Tout était devenu à cette image de ce qu'on se retient quand on est en situation de domination. On se retient de tout écraser, on se retient de faire des choses qui ne conviennent pas finalement à la loi de Dieu, parce qu'on a un regard sur celui qui est en nous, qui nous a donné cette image et ressemblance de lui-même.
Sur cette question, je trouve très intéressant qu'à l'article suivant, le catéchisme va associer la maîtrise, enfin c'est le terme maîtrise, donc là tu parlais de domination, la maîtrise du monde que le Dieu avait accordé à l'homme dès le début se réalisait avant tout chez l'homme lui-même comme une maîtrise de soi. Cette maîtrise que Dieu donne à l'homme, voilà que l'homme devait commencer par la faire jouer sur lui-même, cette maîtrise. Ça me fait penser aujourd'hui, alors quand on parle par exemple de l'écologie, puis pour reprendre encore cette question-là importante, le souci écologique que l'on peut avoir sur la création dans laquelle on est, le rapport à la nature qui nous entoure, voilà que l'homme ne s'applique pas à lui-même, à la réalité, à sa dignité humaine, à ce qu'est un homme, cette écologie, on pourrait dire quand on parle d'écologie intégrale aujourd'hui,
oui,
finalement c'est le même enjeu là.
C'est le même enjeu et le pape Benoît XVI a utilisé dans son pontificat, d'une manière alternative, le mot écologie intégrale ou écologie humaine. Et il montrait bien par là que les choses doivent trouver leur harmonie déjà à partir de nous-mêmes. Si nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes, comment pourrons-nous dégager de l'harmonie autour de nous ? Et donc c'est ça qui est la révolution. C'est d'abord de nous changer nous-mêmes pour arriver à changer le monde. Quand Mère Teresa de Calcutta rencontrait un journaliste qui lui disait « Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ?» etc. etc. Et elle répondait « Commencez par vous changer vous-même. Commençons par nous changer nous-mêmes. » Parce qu'elle ne se mettait pas du tout en dehors du souci de ce changement. Elle comprenait que cela aussi la concernait. Elle voulait se changer tous les jours. Souvenons-nous de cette belle parole de Jean-Paul Ier qui, dans son bref pontificat, eut un jour cette belle parole qui était une prière à Dieu. « Seigneur, pour l'amour du ciel, accepte-moi tel que je suis, mais pour l'amour de toi, ne me laisse pas tel que je suis. Transforme-moi. »
Oui.
Et nous avons tous besoin de le faire. Cette maîtrise de soi, nous ne l'obtiendrons que par la grâce.
Parce que c'est effectivement, on peut avoir à cœur de sauver, de préserver la nature, les animaux, mais l'homme se maltraite lui-même, maltraite la vie en lui-même, dans son développement. C'est ce que
oui. On
voit aujourd'hui, un peu l'incompréhension l'homme qui ne se rend pas compte qu'au nom de sa liberté, il va porter atteinte à la naissance d'un enfant, par exemple, et en même temps, c'est une écologie humaine dont il s'agit ici. Et on aura le souci, un souci très justifié d'une écologie extérieure dans la nature. Mais...
Oui, c'est paradoxal et parfois dans une violence de mots, une violence comme l'antispécisme qui va jusqu'à inférioriser l'homme jusqu'à le faire égal aux autres animaux, voire même inférieur, puisqu'il fait du mal dans la création. Et il y a des violences, je dirais, verbales, et voulant créer des zones de nature vierge pour préserver cette nature vierge de l'homme, etc. Des expressions qui sont extrêmement violentes par rapport au projet de Dieu, qui est de garder cette nature, de l'entretenir et de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre le ciel et la terre et que, d'une certaine manière, la beauté du Créateur, car Dieu est beau, se reflète dans sa création. Et l'homme a, lui aussi, à vivre de cette beauté du cosmos et à l'introduire dans son cœur pour être en harmonie avec ceux qui sont autour de lui. Mais cela, une fois de plus, ne sera jamais sans une transformation du cœur, et il y a un travail à faire, et Dieu, dans son réalisme, d'ailleurs, tout en demandant de garder la terre, de la cultiver, le sol, il donne en même temps le travail pour aider l'homme à rester dans cette vigilance, qu'il ne soit pas oisif.
Oui, alors là-dessus, si l'homme au paradis, c'est un homme qui a gagné une certaine maîtrise de lui, qui a une maîtrise de lui, si je puis dire, il y a un autre terme qui va le caractériser, dit le catéchisme, c'est la familiarité avec Dieu, et c'est là qu'elle est associée au fait que Dieu met l'homme dans une collaboration pour cultiver le sol et le garder, le sol de ce jardin de Dieu, si je puis dire. Et d'une certaine façon, il y a un travail d'avant et un travail d'après, ce qu'on va appeler la chute, dont on parlera la prochaine fois.
Oui, certainement. Dieu déjà aide l'homme à se perfectionner, parce que la grâce élève, perfectionne la nature humaine, et Adam était certainement déjà dans une très grande perfection avec Ève pour comprendre la nature biologique qui les entourait et leur propre nature, ce qu'ils étaient, pour vivre en harmonie les uns avec les autres.